Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 10 octobre 2017 en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
Le secrétaire général de l'ONU condamne les attaques qui ont coûté la vie à deux casques bleus dans l'est de la République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, mise en accusation de Soul to Soul, directeur de cabinet de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale.
Au Mali, nouvelle manifestation des habitants de Kidal pour demander le départ de la force française Barkhane de leur ville.
Élection présidentielle aujourd'hui au Libéria pour choisir le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf.
Le comité de suivi des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord a identifié 4 navires depuis peu interdits de port dans le monde, une première.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne les attaques dans lesquelles 2 casques bleus de Tanzanie ont été tués et 18 casques bleus blessés. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué publié lundi soir à New York son porte-parole Stéphane Dujarric. Le secrétaire général appelle les autorités congolaises à enquêter rapidement sur ces événements et à traduire leurs auteurs devant la justice, a ajouté le porte-parole.
Antonio Guterres réagissait à la mort de 2 casques bleus tués lundi dans le territoire de Beni, dans l'est de la RDC, lors d'une attaque attribuée aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF. Ces derniers auraient aussi tué, samedi, une vingtaine de civils, selon la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO.
En Côte d'Ivoire, Souleymane Camarate Kone, dit Soul to Soul, directeur de cabinet de Guillaume Soro, l'influent président de l'Assemblée nationale, a été inculpé hier. Cette décision entre dans le cadre de l'enquête sur les caches d'armes découvertes chez lui le 15 mai dernier lors de la mutinerie à Bouaké. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre Souleymane Camarate Kone, dit Soul to Soul, pour complot contre l'autorité de l'État, détention, entreposage, cession d'armes de guerre et de munitions première catégorie. Une déclaration faite par le procureur du tribunal d'Abidjan Plateau, Richard Christophe Adou.
Les enquêtes immédiatement ouvertes ont permis d'établir que la villa abritant cette cache d'armes est la propriété de M. Kone Camarate Souleymane, responsable du protocole du président de l'Assemblée nationale. On conclut que cette cache d'armes contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissémination de ces armes de guerre de manière illégale visait la déstabilisation de l'État. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée.
Guillaume Soro, hors du pays depuis plus de 2 mois, a sur sa page Facebook appelé les Ivoiriens au calme et à la sérénité. Et sur son compte Twitter, il s'exprime en ces termes. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Paix sur la Côte d'Ivoire. Cette déclaration à relance religieuse de l'ex-pensionnaire du petit séminaire Saint-Jean de Katula traduit le malaise entre le pouvoir d'Alassane Ouattara et celui qui était considéré comme son dauphin, Guillaume Soro, ex-secrétaire général de l'ex-rébellion armée, qui a pris une part décisive à la cession du président Alassane Ouattara au pouvoir en avril 2011. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Souleymane Camarate Kone di Soul to Soul est le directeur de protocole de Guillaume Soro.
Au Libéria voisin, plus de 2 millions d'électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour choisir le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Parmi les favoris figurent le sénateur George Weah, légende du football africain, le vice-président Joseph Boakai, l'avocat et vétéran de la politique Charles Bromstein, et les puissants hommes d'affaires Benoni Ourey et Alexander Cummings.
Au Mali, les habitants de Kidal ont manifesté pour la 3e fois depuis vendredi afin de réclamer le départ de la force française Barkhane de leur ville. Ces manifestations anti-françaises font suite à la perquisition effectuée par Barkhane au domicile du riche homme d'affaires Mamadou Hag Rissa. Le point avec Kassim Traoré.
C'est le 1er octobre dernier que la force Barkhane avait fait une perquisition au domicile de Mahamadou Aguirissa, adjoint au maire de la ville de Kidal. Deux personnes ont été arrêtées, des voitures brûlées. C'est pour cela que chaque jour, les populations de Kidal organisent des marches, des barricades. Au cours de ces manifestations, l'armée française se fait caillasser dans la ville de Kidal. La population réclame le départ de l'armée française de Kidal. Les soldats s'enferment dans leurs blindés et filent à vive allure pendant que les jeunes jettent des cailloux. Certains manifestants ont peint les panneaux français en rouge pour symboliser le sang versé par l'armée française dans la ville de Kidal. Ces manifestations anti-françaises se déroulent sans incident majeur. Toujours dans la région de Kidal, les concertations entre la CEMA et la plateforme se poursuivent à Anefif, avec un léger blocage au niveau de la commission thématique en relation avec la justice. Par ailleurs, dans la nuit du dimanche 8 octobre au lundi 9 octobre 2017, à Tomia, dans la région de Ségou, des hommes armés sur des motos ont tué le guide forestier et l'agent d'agriculture de Fangasso à 46 km de Tomia ville, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le groupe français Areva a annoncé hier des licenciements en 2018 dans une de ses filiales au Niger. Plusieurs centaines de salariés seraient concernés selon une source syndicale. Les conditions du marché sont très difficiles et les prix de l'uranium très bas, à 1 $ la livre. Somaïr doit adapter son organisation industrielle et ajuster ses effectifs, a affirmé à l'AFP le service de presse d'Areva à Niamey. La Somaïr est l'une des deux filiales d'Areva dans le nord désertique du Niger. Areva n'a pas précisé le nombre de postes qui seront affectés.
La France va lancer des missions au Niger et au Tchad pour identifier des personnes pouvant bénéficier du droit d'asile sur les listes proposées par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est ce qu'a annoncé hier le président français Emmanuel Macron à Philippe Ograndi, président du HCR. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Emmanuel Macron a expliqué au patron du HCR, Philippe Ograndi, que ses missions visent à prévenir l'afflux de migrants économiques non éligibles au droit d'asile. L'Élysée a précisé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides va se rendre fin octobre au Niger. La France prévoit ouvrir sur les deux prochaines années 10 000 places pour les réfugiés acceptés depuis le Niger, le Tchad, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Le président français a rappelé que son pays veut mieux accueillir ceux qui ont droit à l'asile, mais expulser de manière beaucoup plus rigoureuse les migrants économiques qui n'ont pas droit à ce statut. Il a aussi annoncé une augmentation de 10 millions d'euros d'aide de la France au HCR et à l'Organisation internationale pour les migrations. Cet argent va servir à appuyer les actions de ces organes de l'ONU en Libye pour une protection des personnes près des zones de conflit.
Le juge français chargé de l'enquête sur la destruction de l'avion du président rwandais Habyarimana en 1994 veut confronter deux membres du clan Kagame au pouvoir au Rwanda avec un nouvel accusateur, ce qui risque de raviver les tensions entre Paris et Kigali. Bagasikoura.
Le nouveau témoin a été entendu par le juge Clément Herbeau qui a repris l'enquête. Il dit avoir chargé deux missiles dans un camion vers Kigali en présence de James Kabarebe, une figure de la rébellion à l'époque, aujourd'hui ministre de la Défense. Il prête même des propos à M. Kabarebe se félicitant de la mission le 6 avril 1994 au soir qui a marqué le début des massacres à grande échelle. Le juge a ordonné une confrontation mi-décembre à Paris avec James Kabarebe et Frank Nziza, le tireur présumé. Un des avocats des deux hommes, Maître Léon Le Foster, a dénoncé une manipulation médiatique. L'enquête, close une première fois en 2014, a été relancée en 2016 pour entendre un ancien général entré en dissidence. Faustin Kayumba Niawasa, réfugié en Afrique du Sud, n'a jamais été entendu par la justice française. Ce dernier rebondissement ne va pas calmer les relations déjà tendues entre Paris et Kigali, qui, de son côté, avait publié une liste de 22 officiers supérieurs français accusés d'implication dans le génocide.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Las Vegas, dans le Nevada, les enquêteurs ne savent pas toujours ce qui a bien pu pousser Stephen Paddock à tuer, il y a plus d'une semaine, 58 personnes et blessé près de 500 autres dans l'une des pires fusillades de l'histoire récente des États-Unis.
Au moins 10 personnes ont été tuées dans des feux de forêt qui ont ravagé le nord de la Californie, notamment dans les comtés de Napa et Sonoma, connus pour leurs vignobles.
Le comité de suivi des sanctions de l'ONU imposé à la Corée du Nord a identifié 4 navires qui sont depuis peu interdits de port dans le monde. Une première a annoncé lundi le coordonnateur des experts chargé du dossier nord-coréen. Selon une source proche du dossier, les 4 navires ont été visés pour avoir transporté ou continuer de transporter encore aujourd'hui du charbon, du fer et du poisson nord-coréen.
L'Espagne s'approche aujourd'hui de l'inconnu, une possible déclaration d'indépendance de la Catalogne, l'une des plus riches régions du pays avec un engrenage de rupture vis-à-vis de Madrid aux conséquences incalculables qui inquiètent l'Europe. Carl Puigdemont, le président séparatiste, va-t-il déclarer unilatéralement l'indépendance de sa région, comme il menace de le faire, temporiser ou faire machine arrière? Il doit prononcer un discours ce soir. La Minute Écho, Jacques Aristide.
En Côte d'Ivoire, ouverture ce mardi du Forum Ivoiro-Indien à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Abidjan. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Mais pour les autorités ivoiriennes, les échanges demeurent en deçà du potentiel, soit plus de 560 milliards de francs CFA. Une première rencontre entre des membres du gouvernement ivoirien et ceux d'une mission économique indienne a eu lieu hier. En Côte d'Ivoire, l'Inde est présente notamment dans l'agriculture, la sidérurgie, la cimenterie et les nouvelles technologies. Le groupe Total va évaluer pendant un an le potentiel en hydrocarbures au large de la Guinée. L'étude sera partagée avec l'Office national des pétroles de Guinée. Total pourra ensuite choisir 3 permis pour engager un programme d'exploration. Le groupe français détient un réseau de 150 stations-service dans le pays, mais il n'y avait pas d'activité d'exploration-production jusqu'à présent. Total explore déjà au large du Sénégal et de la Mauritanie. La Guinée espère devenir une nation pétrolière. Un puits d'exploration a déjà été foré par la compagnie américaine Hyper Dynamics, mais aucun hydrocarbure n'a été découvert à ce stade. La State Bank of Mauritius, deuxième banque de Maurice, se propose d'acheter certains actifs et passifs de Chase Bank Kenya. La banque centrale du Kenya cherche depuis quelque temps un investisseur stratégique pour Chase, mais n'a pas encore précisé la part qu'elle veut vendre.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Mali se remet dans la course pour la qualification pour les huitièmes de finale du mondial des moins de 17 ans.
Et oui, Idrissa, défaite d'entrée par le Paraguay 2-3, le champion d'Afrique retrouve le chemin du succès, victoire 3-0 devant la Turquie. Des buts de Djemoussa Traoré, Lassana Ndiaye et Konaté ont permis au Mali de l'emporter. Il faudra éviter une défaite devant la Nouvelle-Zélande lors de la dernière sortie pour espérer le ticket pour le second tour.
Le Ghana, en revanche, n'a pas pu enchaîner.
Victorieux de la Colombie 1-0 lors de sa première sortie, le Ghana est tombé sur le même score lors de sa deuxième apparition hier. Les Black Stars cadets ont perdu devant les États-Unis qui valident ainsi leur ticket pour le prochain tour après 2 succès consécutifs. La deuxième place du groupe se jouera donc entre Black Starley et Colombien à distance lors de la dernière journée. Le Ghana sera face à l'Inde et la Colombie jouera les États-Unis.
Ballon d'or 2017, possible pour 2 Africains.
Tout à fait, Idrissa. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le goléador du Borussia Dortmund. Comme l'année dernière, le titre devrait difficilement échapper au Portugais Cristiano Ronaldo, champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive avec le Real Madrid. Un nouveau sacre qui constituerait son 5e sur la distinction.
La France et le Portugal jouent leur qualification directe pour Russie 2018 ce mardi.
Oui, les Bleus seront directement qualifiés en 4 victoires au Stade de France face à la Biélorussie. Mais attention, un nul ou une défaite donnerait l'occasion à la Suède en déplacement aux Pays-Bas de doubler les hommes de Didier Deschamps. Scénario identique pour le Portugal, une victoire est nécessaire pour se qualifier directement. Les champions d'Europe seront face aux Suisses qui restent sur la bagatelle de 9 succès en 9 matchs lors de ces qualifications et qui ont juste besoin d'un nul pour assurer leur présence à la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Libériens choisissent ce mardi le successeur de la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Parmi les 20 candidats en lice, le vice-président sortant Joseph Boakai et le légendaire footballeur George Weah. Reportage de Bram Postumus, repris ici par Lionel Gahima.
L'hymne de campagne du parti au pouvoir est on ne peut plus clair. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur mardi et c'est nous, chantent ces militants du Parti de l'Unité. Rosa Laba, une militante, déborde d'enthousiasme.
Nous avons besoin de quelqu'un à même de prendre sa relève et continuer.
Une allusion à la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Pour les militants du Parti de l'Unité, nul ne mieux placé pour lui succéder que son vice-président Joseph Boakai. Réservé, il n'a jamais été accusé de corruption et jouit d'une bonne réputation. Sa candidature ne fait pas pour autant l'unanimité dans le pays. Le pasteur Ibrahim Ko plaide pour l'alternance. Je suis pour la continuité, mais dans un sens différent. Ce parti nous a servi pendant 12 ans, donc l'heure est venue de changer. Dites changement au Libéria et le regard se tourne vers l'immense quartier général de campagne de George Weah. Légende du football et sénateur de Montserrado, il a brigué la présidence à deux reprises et pense que la troisième fois sera la bonne. Sa militante, Cécilia Moi, est très convaincue.
Je vote pour lui pour l'avenir. Il fera quelque chose de bon pour le Libéria.
Parmi les grands besoins du pays, la remise en état d'un système de santé délabré et dont les lacunes ont été visibles durant l'épidémie d'Ebola qui a pris fin il y a un peu plus d'un an. Les secteurs de l'éducation et des infrastructures routières nécessitent de grands investissements. La commission électorale en a fait l'amère expérience dans l'acheminement du matériel électoral dans les coins reculés. Les résultats provisoires attendus cette semaine permettront de déterminer s'il y aura un second tour. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, c'est la rentrée scolaire 2017-2018 dans les principales régions du pays, mais dans le nord, plus de 500 écoles restent fermées à cause de l'insécurité. Notre correspondant Kassim Traoré a fait le tour de certains établissements scolaires de Bamako. Son reportage.
Après 3 mois de vacances scolaires, c'est la rentrée des classes. Les enfants vêtus de leurs plus beaux habits, les sacs d'écoliers en bandoulière pour certains, retrouvent le chemin de l'école. Devant la petite école privée Le Tremplin, il y avait du monde. Fousseni Berthé, directeur.
On était un peu inquiet de la rentrée, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Il y a l'évanouissance des enfants, vous voyez, mais il faut les accompagner, conseiller, pour qu'ils viennent tôt à l'heure. Et les parents aussi, de tout leur veiller sur les enfants, éviter les retards.
À l'école publique de Banankabougou, c'était l'affluence. Certains parents sont venus se renseigner sur la scolarité de leurs enfants, d'autres pour inscrire les nouveaux, alors que les enseignants constatent qu'il y a beaucoup d'absents.
On a constaté beaucoup d'absence dans les salles de classe. Les cours ont commencé surtout de la deuxième jusqu'à la neuvième année. Moi, j'ai 2 salles où il n'y a pas de maître. Bon, l'appel que je lance aux parents d'élèves est que vraiment, il ne faut pas attendre le jour J, le jour de la rentrée, pour venir à l'école. Pendant tout le mois de septembre, nous, on venait à l'école. Du matin jusqu'au soir, c'était pour accueillir ces parents-là, hein, pour voir les passages, les redoublements. Mais les parents ne sont pas venus, c'est aujourd'hui qu'ils sont venus.
Vers le côté est, dans la grande cour du même établissement scolaire, une monitrice s'occupait de tout petit. Certains dépaysés avaient les yeux pleins de larmes. Juste avant la deuxième sortie de l'école, un enseignant faisait l'appel.
Moi, c'est Issa Kastanoko, Adujien, Banangabouce. Je tiens la deuxième année. Les enfants et les anciens étaient motivés, même les parents d'élèves étaient motivés. La cour était très pleine de monde, les cours ont bien démarré.
Quant aux élèves dans les lycées, établissements secondaires et professionnels, ils se réjouissent de la retrouvaille entre camarades.
Je suis là depuis 7h30 et quelques. Toutes mes amies, je les ai trouvées sur place. C'est une très grande joie pour moi. On doit s'attacher à la ceinture, on doit étudier beaucoup pour avancer. C'est mieux pour nous-mêmes.
Cette rentrée scolaire 2017-2018 a été placée sous le signe de la citoyenneté. Et c'est au groupe scolaire Mamadou Konaté que le ministre a assisté à la leçon modèle sur ce thème. Mohamed Ag Erlaf.
Vu comment ce thème a été exposé dans une classe de premier cycle et dans une autre classe de second cycle de l'enseignement fondamental. Nous aimerions développer dans un cadre global et général au sein de chaque école, afin que chacun, en fonction de son âge et de ses réalités et de son niveau de compréhension de ce thème, puisse s'en imprégner dès l'école, pour que le futur citoyen sache à quoi s'en tenir dans sa vie d'adulte et de citoyen tout court.
La rentrée scolaire a démarré dans certaines localités et grandes villes du pays, mais plus de 500 écoles dans les régions nord sont fermées à cause de l'insécurité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
L'ancienne chanteuse et musicienne burundaise Kadia Nin s'est associée à plusieurs associations pour venir en aide aux malvoyants. Avec 40 000 euros, elle veut aider à opérer plus de 100 patients, des enfants et leurs mères. La première opération sera en Côte d'Ivoire. Ekia Badou a joint à Bamako Kadjanine.
Quand on n'a pas les yeux, on n'a pas d'avenir. Il n'y a pas qu'en Afrique, même en Europe, c'est assez compliqué quand on souffre d'une cécité importante. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a des organismes qui s'occupent des aveugles et qui les scolarisent, etc. Mais ça s'adresse à une très petite partie.
Comment vous est venue l'idée de vous intéresser au handicap et à la malvoyance, la non-voyance ?
J'ai été ambassadrice de l'UNICEF pendant 15 ans. J'ai arrêté parce que je considérais qu'il fallait laisser la relève à la jeunesse, à la nouvelle génération. Mais ce que j'ai appris, j'étais ambassadrice surtout vaccin. Si un enfant n'est pas vacciné, il y a peu de chances qu'il survive. Et il faut savoir qu'un enfant aveugle, il meurt dans les 2 ans. Personne ne sait ça. Et qu'il y a des millions d'aveugles, des milliards d'aveugles sur la planète. J'ai récolté un peu de sous, j'ai des fonds.
Vous dites récolter un peu de sous, mais c'est quand même un peu plus qu'un petit peu, puisqu'il y a quand même le projet de 100 enfants qui seraient opérés. C'est beaucoup.
On espère un minimum, avec ce qu'on a, on espère un minimum de 100 enfants, peut-être même qu'on peut aller jusqu'à 200. Mais là, je suis en train de mettre le projet en place, parce que c'est une première pour moi. À force de voir au carrefour des grandes villes, des aveugles qui mendient, mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas l'aveugle adulte qui mendie, c'est le petit fils et le petit garçon qui est à côté, qui est mobilisé à vie pour s'occuper de cet aveugle. Donc là, ça handicape la vie de 2 personnes, déjà, d'office. Donc je suis en train de mettre en place ce projet pour partir avec un organisme de médecins qui opèrent. Il s'appelle See and Smile, qui font des missions d'opération des yeux. Mais comme il n'y a pas toujours assez d'enfants à opérer, c'est un projet mother and child, la mère et l'enfant. C'est-à-dire que quand dans une famille, une maman aussi est aveugle, c'est une catastrophe pour toute la communauté. C'est une mission d'une semaine de 15 jours. Des médecins, ils arrivent, ils opèrent, ils repartent. On peut opérer des cataractes, on peut opérer certaines pathologies, que quand vous êtes opéré, vous êtes guéri définitivement. C'est ça qui m'intéresse. Mais il y a une autre association aussi qui a très envie de se greffer sur ce projet. Eux, ils s'appellent Eyes for the World. Eux, ils donnent des mesures et ils donnent des lunettes. Donc on aimerait bien faire une action conjointe, une mission conjointe entre ceux qui font la chirurgie et ceux qui donnent des lunettes. Comme ça, là, on touche encore plus de monde.
C'était l'ancienne chanteuse et musicienne burundaise Kadia Nin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Donald Trump, le président, change de nouveau de posture sur l'immigration. Dans un document adressé dimanche soir au Congrès, la Maison-Blanche exige un financement du mur à la frontière avec le Mexique l'accélération des procédures de renvoi des mineurs arrivant à la frontière. Pour une réforme de l'immigration, M. Trump veut aussi changer le système des permis de résident permanent, les cartes vertes ou green card, et la suppression de la loterie qui permet chaque année depuis 1994 à 50 000 personnes de bénéficier de ces précieuses green cards. Enfin, il préconise l'augmentation de manière significative des effectifs du personnel de l'immigration chargé de l'application des textes. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à New York le militant pour les droits des immigrants, Bakary Tandia.
Je peux dire que c'est choquant, en même temps ce n'est pas choquant de la part de ce président qui va de surprise en surprise et qui n'a pas hésité à exhiber sa désapprobation par rapport aux lois d'immigration et sa volonté de faire la chasse à aux immigrants. Donc ce n'est pas une décision surprenante.
Il monte les enchères. Est-ce que vous pensez que le Congrès, qui est majoritairement républicain, va suivre...
Le Congrès, il est vrai que est majoritairement favorable à lui. Bon, mais la réalité est que les propositions qu'il vient de faire ne sont pas du tout réalistes. Bon, premièrement, le financement du mur, moralement, c'est inacceptable. Financièrement, c'est un gâchis. Et puis, selon les experts, d'une manière unanime, ce n'est pas un moyen effectif de protéger les frontières. Et la proposition concernant les mineurs qui consiste à les renvoyer dans les délais les plus courts revient tout simplement à les priver des protections légales qui sont actuellement disponibles pour assurer que les choses se passent conformément aux lois, conformément à certains principes humains. Ils n'ont personnellement commis aucune faute, ils n'ont violé aucune faute, ils n'ont violé aucune loi. Donc c'est tout à fait, c'est vraiment inacceptable, c'est indéfendable sur tous les plans, sur le plan humanitaire, sur le plan légal, sur le plan moral. Bon, par ailleurs, le problème de la loterie, la green card, bon, qui consiste à sélectionner chaque année une cinquantaine de milliers de personnes qui viennent ici avec la carte verte. Bon, ça, nous, en tant qu'Africains, ça nous concerne, ça nous affecte principalement. Comme nous l'avons toujours dit, la majorité des Africains qui viennent ici aux États-Unis avec le visa d'immigrant viennent à travers ce canal. Et c'est un canal qui a toujours marché pour nous, qui ne cause de préjudice à personne, à aucune autre communauté. Bon, donc, le fait de nous priver de cette opportunité est une atteinte à la communauté africaine. On peut même l'interpréter comme un acte discriminatoire.
C'était de New York le militant pour les droits des migrants, Bakary Tandia.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.